Que le Seigneur soit béni. Vous savez, la vie, le niveau spirituel, ce n'est pas une question d'ambiance. Le niveau spirituel, c'est une question de piété. Et on le vérifie, croyez-moi, au fur et à mesure qu'on avance dans les voies du Seigneur. Nous allons faire quelques lectures. Et après, je voudrais que, quand on prenne la Sainte Cène, il n'y ait pas cette routine, mais un acte de foi qui soit fait. Vous êtes d'accord pour faire un acte de foi par rapport à ce que vous allez entendre? Nous allons donc lire d'abord dans l'Apocalypse. On va faire quelques lectures. Dans l'Apocalypse, il y a un moment où nous voyons que le Seigneur n'est plus, comme on l'a si bien chanté ce matin, sur le trône de la grâce. Il est sur le trône blanc qui est le trône du jugement dernier pour tous ceux qui n'ont pas voulu marcher sur le chemin étroit. Apocalypse 20, verset 11, c'est quelque chose de terrible. On l'appelle le jugement dernier, mais parce que c'est le dernier jugement. C'est le jugement de tous ceux qui n'auront pas voulu la grâce de Jésus-Christ. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Nous allons faire une lecture dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, une parole terrible. N'oublions pas, c'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Il faut lire ces choses de temps en temps. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, il y en a beaucoup. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et là aussi, on peut dire Amen, même si ça nous fait de la peine de voir ces choses. Je voudrais introduire ce moment, on va lire deux autres textes, on va les lire. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, on va le lire tous, c'est bien. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, Jésus enseigne sur la prière. Les apôtres ont été touchés et ils demandent au Seigneur d'apprendre à prier. Et une fois qu'il leur enseigne la prière, un canevas de prière, il rajoute un enseignement. Luc chapitre 11, verset 5. Jésus leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains. » Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, n'oubliez pas, c'est Jésus qui parle. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Un petit peu plus loin dans l'évangile, toujours de Luc, au chapitre 18, je reviens sur la parabole que j'ai partagée avec vous la semaine dernière. Une autre parabole sur la prière, qui n'est pas le même enseignement, Luc chapitre 18, Qu'est-ce que Jésus dit? Je ne vais pas vous la lire en entier, je vais juste vous parler de l'enseignement qu'il donne au départ. Luc 18, verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher malgré toute l'adversité qui peut se trouver dans cette parabole. Vous la lirez si vous ne la connaissez pas. Alors je commence avec cette question qu'une chrétienne m'a posée cette semaine. Elle m'a posé cette question. Est-ce qu'il y a dans la Bible une église à laquelle Dieu ne fait pas de reproches? Oui, j'ai entendu. Exactement. C'est l'église de Philadelphie. On va lire quand même ce que Jésus dit à cette église. Pourquoi il ne lui fait pas de reproches? Parce que c'est quand même intéressant, oui ou non, de savoir pourquoi Dieu ne fait aucun reproche à cette église, surtout qu'à toutes les autres, c'est quand même difficile. Malgré le fait que ce soit l'église du Seigneur, c'est une église à laquelle il n'y a pas de reproche à faire. Même s'il y a des conseils à mettre en pratique, bien entendu. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance que tu as gardé ma parole. Ça, c'est la clé. Tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan. Vous voyez combien pour Dieu, il peut prendre quelqu'un qui est vraiment mal. Hein, qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui mentent. Mais je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de reproche qu'il ne faut pas recevoir certains avertissements. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne, parce que vous savez qu'il y en a un qui est spécialisé dans l'art de voler les valeurs spirituelles que nous avions acquises dans les années passées. Le diable est un voleur. Donc, cette église ne reçoit aucun reproche. Pourquoi? Parce qu'elle garde la parole. Elle écoute la parole. Il y a des gens, ils veulent une église, mais pas la parole. Ils ont renié le nom du Seigneur. Ils veulent un centre de distraction. Mes frères et sœurs, le salut des âmes exige quelque chose de beaucoup plus sérieux que de la distraction. Le salut des âmes exige qu'il y ait une vraie piété dans l'Église. Est-ce que vous le comprenez? Retiens ce que tu as. Alors que faisons-nous des instructions? Parce que quand même, il faut l'expliquer, c'est la prédication de ce matin. Qu'est-ce que je fais des instructions que le Seigneur me donne? Madame Fatah et son mari témoignaient, ils ont pris au sérieux. Pourtant, pendant des années, ils n'ont pas pris au sérieux. C'est bien ça, ils n'ont pas pris au sérieux les instructions du Seigneur. Et ils ont failli se perdre totalement. S'il y a une vierge sur deux qui est folle, c'est pas par hasard. Alors il y a des instructions, regardez, on est dans l'Apocalypse, regardez juste avant dans les Hébreux, au chapitre 4, c'est quand même un verset qui est venu sur mon cœur par rapport au repos. La dernière fois j'ai parlé sur le repos, combien de chrétiens ne connaissent pas le repos? Le témoignage de notre sœur, de 2 minutes, d'épouse, rappelle qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas le repos, qui n'ont pas la paix. Et il y a un repos, regardez Hébreux 4, verset 9, lisons jusqu'au verset 16. Il y a des instructions en pagaille dans la Bible qui nous permettent d'obtenir vraiment ce repos. Hébreux chapitre 4, verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos pour l'Église. Vous le croyez, ça? Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est une instruction, c'est un commandement, c'est une invitation. Appelez-le comme vous voulez, moi ça m'est égal. Mais c'est quelque chose que Dieu nous propose ce matin. Empressons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Lisez-le avec moi ce verset sérieusement. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir, il n'est pas afin de pas de prier ou de demander, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Gardez Hébreux parce qu'on y reviendra tout à l'heure pour une prochaine lecture. Il y a un chemin spacieux qui conduit à la perdition. Vous le savez. Vous y pensez des fois. Il y a un chemin, c'est un chemin facile. On fait ce qu'on veut, pas de contraintes. On veut bien une église, mais pas de commandements. On veut bien se distraire, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que l'église de la distraction, elle existe, croyez-moi. Pas de croix, mais je fais ce que je veux, je fais comme je veux, je fais ce qui me plaît. Et ce chemin, la porte elle est ouverte à tout le monde. Et il y a les gens qui aiment ce chemin. Et le verdict, on l'a lu ensemble, beaucoup entrent par là. Beaucoup, ça signifie toujours un très grand nombre dans la Bible. Franchement, rien que ce texte, mes frères et sœurs, soyons sérieux. Rien que ce texte que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. À savoir que beaucoup de gens, peut-être que vous en connaissez, des amis, des voisins, des collègues, des enfants, oui ou non? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont sur le chemin large et spacieux? Oui. Rien que cette parole nous invite à prier. Vous êtes d'accord? Et pas à prier pour prier, parce qu'il y a la prière. On fait des prières pour prier. Je l'ai dit souvent, on a souvent critiqué justement nos amis catholiques qui récitent des prières, mais ne me dites pas qu'au milieu de nous, il n'y a pas des gens qui récitent des prières, qui prient pour se faire croire qu'ils sont avec le Seigneur. Cette parole, elle devrait nous encourager. Comme je l'ai dit l'autre jour, la parole, voyez, à cause de l'iniquité, un grand nombre se refroidira, la plupart se refroidiront, ça ne doit pas nous décourager. Ça doit nous pousser à dire, mais non, moi je ne me refroidirai pas, moi je ne ferai pas partie de ce grand nombre. Et même les paroles difficiles doivent nous faire réfléchir. Et dire, mais oui, je comprends, tiens, cette parole me fait comprendre pourquoi Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière. Est-ce que vous comprenez que l'église doit être une maison de prière parce qu'il y a une foule de gens qui vont vers la perdition? Combien de gens ce soir seront dans l'éternité sans Dieu? Il y a plein de Français qui ne savent pas ce soir qu'ils seront partis dans l'éternité sans Dieu. Il y a un Français qui meurt toutes les minutes. Il y a 1500 Français qui meurent par jour. Oui, bon, c'est des statistiques, mais c'est quand même... C'est la vérité. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en aura 1400, demain, il y en aura 2000, j'en sais rien. Mais la moyenne, c'est 1500 par jour. Combien de gens sont sur ce chemin de perdition? Si Jésus avait dit que le chemin qui mène à la perdition est vide, qu'est-ce que vous auriez dit? Comment? Alléluia! On n'a pas besoin de prier. Oui, j'exagère. Mais vous comprenez, si Jésus avait dit, vous savez, le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, il n'y a personne. Tout le monde est avec moi. On pourrait dire, bon, mais c'est bon, les prières, une prière, bon, on va les espacer. Mais rien que ce verset nous prouve que ce chemin spacieux, large, est beaucoup de gens, et des gens qu'on aime. Parce qu'après, il y a les gens qu'on connaît moins, c'est vrai. On ne va pas jouer les hypocrites. Il faut être d'un naturel total. Les gens qu'on ne connaît pas, ça nous fait moins mal que les gens qui sont là autour de nous, qu'on aime nos enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Heureusement. On est con, si on avait le fardeau pour tout le monde comme on l'a pour nos proches, ça serait insoutenable. Mais les gens, ils sont sur ce chemin. Et ça prouve que la parole de Jésus doit être prise au sérieux. Ma maison sera une maison de prière. Il faut prier, mes frères. Jésus leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Combien de chrétiens sont relâchés? Beaucoup de chrétiens ce matin devraient être ici, ou dans d'autres églises. Ils n'y sont pas. Pourquoi ils n'y sont plus? Parce qu'ils étaient moins bons que nous, bien sûr. Non? Mais non. Sûr que non, parce que ça je l'ai entendu. Vous voyez combien il y a des gens qui sont fins. Parce qu'ils n'ont pas persévéré. Et Dieu nous dit qu'il y a un combat. Il y a un combat. Vous rappelez le texte que j'ai pris la semaine dernière dans l'Apocalypse? L'accusateur des frères qui se tenait devant Dieu. Comment c'est la suite? Jour et nuit, afin d'accuser les frères. Et l'ennemi, lui, il ne se démobilise pas. Vous avez vu dans Ésaïe 14, pour ceux qui le prendront, quand le prophète nous parle de la chute de Satan. Ne le cherchez pas. C'est dans Ésaïe 14. Et voilà, il le décrit que c'était un... Tous les démons étaient au départ des anges qui ont choisi les ténèbres. Et Satan était un chérubin protecteur. Enfin, la description de Lucifer, c'était quelqu'un qui avait une autorité. Et un jour, il est dit qu'un jour, l'iniquité rentrait dans son cœur. Il a envié Dieu, il a dit « Je m'assirai sur le trône du Très-Haut ». Il a voulu supplanter Dieu. Mais quand vous lisez Thessaloniciens, qui c'est qui est assis dans le temple de Dieu reconstruit à Jérusalem? Qui c'est? L'Antéchrist. 2500 ans ont passé, depuis qu'il a dit ça, et qui c'est qu'on voit assis dans le temple de Dieu? L'Antichrist. Il est déterminé. Et c'est pour cela qu'il y a un combat. Parce que je sais très bien que tous les chrétiens ne comprennent pas la portée du combat dans l'invisible, du combat contre la puissance des ténèbres. C'est peut-être fastidieux pour certains. Mais il y a un combat. Et si le Seigneur nous dit dans des paraboles, il faut toujours prier, ce n'est pas une question de répéter, c'est une question de persévérer. De persévérer dans la prière. La prière doit être persévérante. Beaucoup de gens ont rétrogradé, je ne sais pas si le mot... sont devenus des fils prodigues, parce qu'ils n'ont pas persévéré dans la prière. Dans Luc 18, c'est la persévérance. Dans Luc 11, ce n'est pas une question de persévérance. Il faut bien comprendre l'enseignement. Recevez mes instructions. Les chrétiens de la Odyssée, ils ont gardé la parole. Ce matin, je vous donne une pensée, ou deux ou trois. Est-ce que vous allez les comprendre? Est-ce que nous allons les comprendre? Est-ce que nous allons les garder? Est-ce que nous allons les vraiment les saisir? On dira, mais c'est vrai, il y a tellement d'enseignements sur la prière. Qu'est-ce que je fais de Luc 18? Où j'en suis de la persévérance? Est-ce que j'ai besoin de persévérer? Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible qui nous indique qu'on a besoin de persévérer? Est-ce qu'il y a un texte qui dirait, vous avez besoin de persévérance? Oui, on le lit. C'est dans Hébreu. Je vous avais dit qu'on le lirait tout à l'heure, Hébreu 11. 10, Hébreu 10. Regardez, c'est important. Ils ont gardé la parole, les chrétiens de Philadelphie. Ils ont gardé la parole, et bien, ils étaient prêts. C'est écrit, mes frères et sœurs. Ce sont des instructions, des invitations, des ordres, des commandements. Prenez-le comme vous voulez, mais c'est merveilleux. Hébreu 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une toute petite rémunération. Non, pardon, une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Vous et moi, mes frères et sœurs, nous avons besoin de persévérance. Quand les chrétiens de Philadelphie, ils entendaient les prédications, « Oh, vous avez besoin de persévérance », eh bien, ils persévéraient. Ça ne veut pas dire qu'ils ont gardé la parole, nous on n'ajoute rien, on ne retranche rien, on est super carré dans la parole. Ce n'est pas ça que ça veut dire, bien sûr ça en fait partie. Mais en vérité, quand ils lisaient, vous avez besoin de persévérance, eh bien je vais persévérer. Parce que Jésus le demande, parce que j'en ai besoin. Vous le lisez comme moi. Est-ce que vous le lisez comme moi? Vous avez besoin de persévérance. Et si quelqu'un dit non, 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 vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous... obteniez. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, notre Dieu, vous êtes d'accord avec tous ces beaux cantiques qu'on a chantés, qui élèvent la gloire de Dieu, le trône de la grâce? Vous étiez d'accord avec les cantiques que vous avez chantés? Et il faudrait qu'on soit d'accord quand on comprenne ces choses pour pouvoir prier. Dieu nous dit au travers de ce texte et d'autres, afin que vous obteniez. Les gens, ils prient souvent, mais ils prient pour prier. Ils ne prient même pas pour obtenir. Il y a tellement longtemps qu'ils n'ont pas été exaucés que certains ne croient même plus à l'exaucement des prières. Je le sais. Luc 11, quand Jésus, après avoir enseigné à prier... En prière, je vous l'ai dit l'autre jour, le Notre Père, c'est une prière qui nous enseigne à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle à la prière. Parce que c'est lancinant dans les églises. Beaucoup de chrétiens, justement, veulent de la distraction parce qu'ils ne sont plus d'accord avec cette piété profonde et ils veulent de la distraction. Luc 11 nous parle de quoi? Vous avez vu cette amie? C'est merveilleux quand même. Elle est belle. Vous ne trouvez pas qu'elle est merveilleuse, cette parabole? Jésus enseigne la prière, voilà, il faut faire comme ça, il n'y a pas d'obstacle. Si un ami va trouver un ami, parce qu'un ami est arrivé en pleine nuit, il a besoin de pain, il va arriver, il n'a rien. Vous savez, je voudrais terminer avec ça tout à l'heure. Il y a un beau cantique qu'on chante des fois, « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir ». Il est bien ce cantique. Ça peut se présenter. Est-ce que ça peut se présenter qu'on n'ait pas grand-chose à donner? Honnêtement, ça vous est jamais arrivé de vous sentir démuni des fois? Ce n'est pas pour ça que ça ne va pas. Mais ça nous est déjà arrivé de nous sentir démunis. Et Jésus montre en premier lieu que l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle. Peut-être que je n'ai pas grand-chose à offrir, je n'ai rien à offrir. Mais il y a un besoin. Il y a un besoin parce que des multitudes d'hommes et de femmes sont sur le chemin large et spacieux de la perdition et on ne sait pas quand est-ce que ce chemin va s'achever pour certains. Oui ou non? Il y a des gens qui sont en vie ce soir, on ne sait pas s'ils ne seront pas morts demain matin. La vie ne nous appartient pas, la vie appartient à Dieu. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, la vie appartient à Dieu. Et le chemin va peut-être terminer pour certaines personnes qui ne pensent même pas à l'éternité. Et la prière de Luc 11 est une prière qui n'a rien à voir avec la persévérance. C'est une prière qui a à voir avec la passion. Est-ce que vous comprenez? Je veux nourrir les autres. J'ai rien. J'ai rien. Il y a des gens, dès qu'ils ont rien, ils se replient, ils se rétractent, ils se culpabilisent. On ne sait pas pourquoi ils ont rien. Ça, c'est notre problème. Mais Jésus enseigne qu'il y a des prières qui doivent persévérer parce qu'on a besoin de persévérance, parce que des fois on est fatigué, parce que des fois on est découragé, parce que des fois on a pris des coups, oui ou non? Le découragement, ça peut être très bref, ça peut se transformer en désespoir. Vous savez, l'ennemi, c'est ce qu'il fait parfois. Le découragement, ça vient jamais de Dieu. Les épreuves viennent de Dieu, mais le découragement, ça vient pas de Dieu. Je sais de quoi je parle, croyez-moi. Donc, Luc 11, cet ami qui va voir un ami pour un autre ami, etc., montre qu'il faut de la patience, de la passion et de l'importunité. Peut-être que certains, vous voyez, je le redis, pour vous aider. Tiens, c'est quoi l'importunité? C'est quoi l'importunité? Des fois, on lit des textes, bon, on suppose, mais c'est quoi l'importunité? Qu'est-ce que c'est de... Vous voyez, des gens qui dérangent tout le temps. Les jeunes, ils diraient, il y a une jeune fille dirait, oh, ce gars, il me colle au basket. Vous avez jamais entendu ça, les jeunes? C'est ça, l'importunité. Après, c'est courant. C'est quelqu'un qui est déterminé. Il est là, il a de la passion, il veut faire quelque chose. Même s'il n'a rien, il veut faire quelque chose. Vous savez, quand on disait, mais ne me dérange pas davantage. C'est ça l'importunité. Tant pis, j'ai rien, c'est la nuit. Et vous ne croyez pas que les ténèbres s'épaississent, hein? Jonathan l'a bien dit tout à l'heure, oui, le pays est apaisé. Le pays du Seigneur est apaisé. Les chrétiens, ils sont dans la paix. Les chrétiens qui vivent dans le repos. Mes frères et sœurs, la nuit est épaisse. Le chemin étroit et spacieux se remplit d'hommes et de femmes qui vont droit à la perdition. Le jugement dernier viendra, vous le croyez peut-être pas. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas assis sur le grand trône blanc. Le jour, on y assistera à cette affaire, puisqu'il est dit que ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul, que vous jugerez le monde. C'est écrit ou c'est pas écrit? Ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Donc nous participerons, je ne sais pas de quelle façon, mais enfin, bon, ça doit être très bien, nous participerons au jugement des impies. Mais moi je préférerais que les impies soient aux noces de l'agneau, voyez. Et ça dépend de nous. Que nous le voulions ou non, si le Seigneur enseigne sur la prière persévérante et de notre côté sur la prière passionnée, c'est parce qu'on a besoin de persévérance, mais on a besoin de passion. Alors ce n'est pas écrit mot pour mot, vous avez besoin de passion, mais quand Paul dit « soyez fervent d'esprit », c'est la même chose, vous le comprendrez. C'est exactement la même chose. Donc nous avons besoin de passion. Et peut-être que je n'ai plus de passion. Je n'ai plus de passion pour les âmes. Je ne crois plus en la prière. Je prie. Mais j'en ai assez parce que Dieu ne m'exauce pas. Mais ça serait peut-être le moment, sérieusement, si je prie depuis... Bon, il y a des choses que je peux ne pas obtenir maintenant. Mais dans mon cœur, j'ai de l'assurance. Mais sérieusement, si je prie, et que ça fait des mois qu'aucune de mes prières n'a été exaucée, que je n'ai rien obtenu, puisqu'il est dit « approchez-vous pour obtenir », ça serait peut-être bien qu'en plus de ces moments dans la Sainte Seine où on se recueille, peut-être je dis au Seigneur, mais est-ce qu'il n'y a pas un obstacle à la prière ? Moi, cette semaine, il y a 15 jours, j'ai vu un frère qui est venu me voir. Et j'ai dit, mais monsieur, j'ai dit, Dieu n'exaucera pas vos prières. Dieu n'exaucera, vous pouvez prier tant que vous voulez. Et j'ai dit, vous voulez que Dieu vous exauce vos prières ? Il m'a dit oui. Et bien, demandez pardon. Même si votre colère est justifiée, mais si, même si votre douleur est vraie, oui, il faut pardonner. Et il l'a fait. Et Dieu va le bénir, je le sais. Et il ne faut pas faire de cinéma avec le Seigneur. Pourquoi Dieu veut des prières passionnées ? Pourquoi Dieu veut des prières persévérantes ? Pour que nous obtenions. Alléluia. Et ce matin, qui que vous soyez, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouviez, même si vous êtes dans ce cas de figure où vous dites, mais moi j'aimerais bien nourrir tel ami ou tel voisin, ou mon fils déjà quand il va venir me voir, peut-être tiens mercredi mon fils y vient, et bien plutôt que de dire viens à l'église, il faut venir à l'église, ça sert à rien ça. Vous entendez, ça sert à rien. Votre fils, il doit recevoir la paix du Seigneur. Seigneur, j'ai pas la paix, je suis tout le temps énervé, je suis tout le temps en vrac avec... Eh bien, demandez pardon. Pourquoi il nous est dit « approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir... » Pourquoi obtenir ? Qu'est-ce qu'il y a ? Trois trucs. Mais c'est quoi le premier ? La miséricorde. Parce que peut-être avant que j'ai la possibilité de faire miséricorde aux autres, il faudrait peut-être que moi je l'obtienne. Est-ce que vous comprenez ? Et quand le Seigneur, dans sa bonté, indique des commandements, aujourd'hui on n'aime pas les commandements, qu'est-ce que vous préférez que je dise ? Invitation ? Commandement ? Ou les ordres ? Qu'est-ce que vous préférez ? Allez, répondez-moi, on va faire un sondage. Qu'est-ce que vous préférez ? Non mais c'est... Comment ? Mais c'est bien. Quand quelqu'un a compris que les commandements de Dieu sont des bénédictions... Mais les gens, je ne supporte pas que c'est un commandement. Alors qu'ils ne commencent pas à nous prendre la tête. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, monsieur Gault, vous ne devriez pas prêcher comme ça. Des fois, j'ai des formateurs. Mes frères et sœurs, Dieu bénira sa parole. Il y a un chemin large et spacieux. Il y a plein de gens que nous connaissons qui sont sur ce chemin. Dieu n'est pas d'accord. Dieu veut qu'il soit sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et Dieu a tout accompli à la croix pour que les gens qui sont sur le mauvais chemin puissent passer sur le bon chemin. Pour cela, il veut des prières passionnées, il veut des prières persévérantes. Il a institué la prière dans ce seul but, pas des prières pour demander, des prières pour obtenir. Il faut comprendre la différence. Quand je prie, Seigneur, voilà, Jésus l'a dit, mais moi je vous dis. C'est pas moi, c'est pas nous, les assemblées de Dieu qui ont décrété ça. Le Seigneur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant qu'on s'est réjoui d'exalter tout à l'heure. Il dit, moi je vous dis, demandez et vous recevrez. Eh bien, j'ai pas reçu, je reçois pas, je reçois plus. Eh bien, mets-toi à genoux, enfin à genoux en tous les cas spirituellement, et dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a qui fait obstacle ? Dieu va pas jouer à cache-cache, c'est pas possible. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose, Dieu vous le montrera. Oui ou non ? Ce n'est pas possible. Si Dieu ne vous le montre pas, c'est que vous ne voulez pas en vérité le savoir. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas savoir. C'est un cinéma total. Seigneur, que ta volonté soit faite, mais ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un de tout son cœur, c'est pour ça que j'ai lu « Nulle créature n'est cachée à ses yeux, tout est nu et découvert ». Dieu y voit. Quand je me mets dans mon bureau, et c'est important que je trouve ce lieu secret dans la présence de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte ? Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. N'importe où vous êtes, dès que vous retrouvez seul dans le secret, dans votre voiture ou sous votre couette, n'importe où, vous êtes dans le trône de la grâce. Vous le croyez ça ? Est-ce que vous le croyez quand vous, le matin ou le soir, hop, prenez votre Bible, vous vous asseyez dans votre bureau tout seul, vous êtes au trône de la grâce. Alléluia. Est-ce que vous le croyez vraiment? Vous êtes au trône de la grâce. Au trône de la grâce, il y a un Dieu qui fait grâce. Avant de faire grâce, il faut obtenir miséricorde. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi la différence? Il y a une très grande différence entre la miséricorde et la grâce. Voyez, je veux pas donner de leçons, mais je suis peiné de voir que des choses aussi belles, importantes, ne soient pas un souci pour nous de dire, tiens, mais est-ce que c'est quoi la miséricorde et la grâce? Des fois, on confond les deux. Alors, moi, je sais que si nous, les pasteurs, on avait fait notre boulot, on n'en serait pas là. Mais mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, si j'ai besoin de miséricorde, Dieu veut m'accorder miséricorde. Il ne veut pas que je demande la miséricorde. Vous l'avez lu, afin d'obtenir la miséricorde. Seigneur, je veux ta miséricorde. La miséricorde, ça, la grâce, vous savez ce que c'est la grâce? La grâce, c'est Dieu qui nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. Vous savez, la faveur imméritée. La définition du mot grâce, c'est faveur imméritée. Voilà, je ne mérite pas le salut. Eh bien, Dieu me le donne. Ça s'appelle la grâce. Gloire à Dieu. La miséricorde, c'est pas pareil. La miséricorde, c'est que je mérite la correction, le châtiment, la punition. Et Dieu ne me traite pas selon mes péchés. Est-ce que vous voyez la différence? La miséricorde, c'est extrêmement important. La première chose qu'on doit obtenir, c'est la miséricorde. Avant d'obtenir la grâce. Il faut s'installer après dans la miséricorde. Mais il y a beaucoup de gens qui obtiennent miséricorde. Par exemple, on peut dire, bon, on va prendre la Sainte-Seine, c'est moins de 10, on va prendre la Sainte-Seine dans 10 minutes, un quart d'heure. Seigneur, fais-moi miséricorde, Seigneur. Tu vois, Seigneur, je ne suis pas un bon chrétien, je n'ai pas de pain à donner, je n'ai même pas un morceau de pain à donner à quelqu'un. Dieu le sait. Si Jésus a utilisé cette parabole, c'est justement pour que nous ne nous culpabilisions pas quand nous sommes pauvres. Mais si nous sommes pauvres, mes frères et sœurs, moi je connais quand même quelqu'un qui est assez riche pour bénir tout le monde. Est-ce que vous croyez que le ciel peut se déverser dans votre cœur? Est-ce que Dieu peut vous donner? Ce matin, je lisais pour mon plaisir personnel tous ces textes où Dieu dit, mais afin qu'il te donne des richesses cachées. Enfin, c'est un truc de fou, le nombre de fois où on voit Dieu qui attend une chose, c'est que nous nous tenions devant lui et qu'on reçoive. D'ailleurs, le texte qui a été utilisé tout à l'heure dans une prière, ce n'est pas tout à fait juste. Quand il est dit dans les psaumes, ouvre ta bouche et je la remplirai, c'est exactement l'image d'un oiseau. Vous savez, un oisillon qui est dans le nid, il ouvre sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il sait que le maman ou le papa vont arriver avec la cargaison. Oui ou non? C'est exactement ça. Seigneur, j'ouvre la bouche, ce n'est pas pour parler, c'est pour recevoir. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Est-ce que vous comprenez? L'image exacte dans l'hébreu, c'est ça. C'est que Dieu va me donner. Je veux que tu me donnes. Et Jésus, mais on n'a aucune excuse. Et avant de mourir, vous savez, souvent on dit les sept fois où Jésus a parlé de l'amour, dans Jean 14, 15, 16 et 17. Mais il y a sept fois aussi où Jésus dit, demandez et vous recevrez. D'une façon ou d'une autre. Demandez! Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Vous croyez que Dieu peut vous donner du pain? Vous croyez que Dieu peut vous donner du vin? Vous croyez que de la joie? Vous croyez que Dieu peut vous donner de l'huile? Vous croyez que Dieu peut vous donner des vêtements blancs? Vous croyez que Dieu peut vous donner des conseils? Ce matin, je lisais dans Romains quand il est dit que les hommes sont ingénieux au mal. Les gens ne savent pas quoi faire pour trouver des choses mauvaises. Vous avez vu comment le monde est? Vous avez vu le monde? Ils ne savent pas quoi faire pour le mal. Et tout le temps, des nouveaux trucs pour soulever le mal. Ingénieux au mal. Et moi, je disais, Seigneur, tu vois, donne-moi d'être ingénieux au bien. Vraiment. Est-ce qu'on peut le demander, Seigneur, donne-moi d'être dans le bien. De recevoir le bien. Donne-moi, Seigneur, de la sagesse, du discernement, des dons spirituels. Est-ce que c'est écrit aspirer aux dons spirituels? Est-ce qu'il y a des versets qui confirment ce que je vous dis? Eh bien, Seigneur, je vais te les demander. Demandez! Moi, je vous dis, demandez, vous recevrez. Moi, je vous dis, cherchez et vous trouverez. Moi, je vous dis, frappez et l'on vous ouvrira. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui s'approche du trône de la grâce, il doit obtenir. Il doit obtenir. Seigneur, j'obtiendrai miséricorde. Mon fils, tu veux qu'il soit sauvé. Seigneur, j'assiégerai le trône de la grâce. Seigneur, tu sauveras mon fils. J'ai rien, Seigneur. J'en ai honte, tu sais, j'en ai honte, Seigneur Jésus. Mais toi, tu as le pain. Et je t'importunerai. Je t'importunerai avec passion. Parce que si Dieu nous a donné des enfants, écoutez, si Dieu nous a donné des gens, de la famille, des parents, des enfants, il veut les sauver tous. Et n'écoutez pas le diable qui vous dit que Dieu n'entend pas vos prières, que ça ne sert à rien de prier, Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas vrai. Dieu exauce la prière. Il est tout puissant. Il a le pouvoir à une seconde d'écouter des millions de prières. Il est tout puissant. Est-ce que vous le croyez, ça, mes frères et sœurs? Il est tout puissant, le Seigneur. Et nous devons prendre au sérieux. Oui, le chemin, il est large. Oui, dans ma famille, oh, déjà, des fois, on voit des gens, on dit, mais c'est plus la peine. T'as vu comment il est malade? T'as vu comment il est tordu? Mais c'est un pauvre type. Mes frères et sœurs, il ne faut pas parler comme ça. Parce que je ne pense pas qu'on était meilleur qu'eux. Et quand on est dans un moment de déficience, on devrait peut-être demander au Saint-Esprit qu'il nous montre comment Dieu s'y prend pour changer un petit peu l'affaire de Lazare. Vous savez comment le Seigneur s'y prend? Comment Dieu a montré à Ézéchiel ce qu'il était capable de faire? Mais il était prêt, c'était au chapitre 37. Ézéchiel avait cheminé. Quand vous lisez la vie de ce prophète, ben c'est comme chacun de nous, où on régresse, où on progresse. Ézéchiel avait obéi, donc il avait progressé. Il était à l'école, comme nous. Et il arrive au moment où il est capable d'aller plus loin, et Dieu l'amène dans une vallée d'ossements desséchés. Et il lui pose la question, Ézéchiel, t'as vu un cimetière ouvert, avec des os, c'est beau. Et en plus, il va dire plus loin, ces os, c'est la maison d'Israël. Nous, on croit que les eaux, souvent, c'est les pécheurs. C'est la maison d'Israël. Pour nous, c'est l'image de l'Église, qui ne va pas très bien. Et Dieu, il dit, mais t'as vu, Ézéchiel? Ces eaux, est-ce qu'ils peuvent revivre? Ben, tu le sais. Et vous savez ce que Dieu va faire? Et qu'est-ce qu'il va lui dire, au fait? Qu'est-ce qu'il va lui dire à Ézéchiel? Prophétise. Ça veut dire quoi? Prophétise. Parce que les gens prophétisaient, c'est pas de la divination. Prophétise. Il va rappeler. Vous lirez le texte. Il va rappeler ce que Dieu dit. Prophétiser, c'est rapporter ce que Dieu dit. Et il va répéter ce que Dieu demande, comme moi je fais. Je répète ce que Dieu me met à cœur. Et il va se passer un miracle. Mes frères et sœurs, le chemin, il est large et spacieux, le monde y est dessus. Les gens y vont à bras ouverts parce qu'il n'y a pas de contraintes. Mais nous avons un Dieu qui nous dit, je ne suis pas d'accord avec cette affaire-là. Moi, je veux, tant que je suis assis sur le trône de la grâce, je veux que des gens passent des ténèbres à la lumière. Et c'est le devoir de l'Église. C'est pour ça que nous devrions nous remettre en question et dire, est-ce que, avant de faire miséricorde aux autres, est-ce qu'il ne faudrait pas que tu me refasses miséricorde à moi? David, il a attendu un an avant de se remettre en question parce que quelqu'un l'a bousculé, il lui a dit, mais tu es cet homme-là. Et il a su prier, il savait, David, il savait. Et il avait, ce matin, je lisais l'histoire de David, la fin de sa vie, il a été entouré de gens qui l'ont gardé. Quand M. Fatah disait, on ne peut pas vivre sans église, mais il a entièrement raison. David, s'il n'avait pas été entouré de ses amis, je peux vous dire qu'à un certain moment, les frères de Goliath, ils lui auraient fait la peau. Il faut être entouré. Regardez comment à la fin de sa vie, il ne parle pas de ses exploits. Il parle de ses amis qui étaient là pour le soutenir. Il y en a certains, en plus, c'est des drôles de bonhommes. Il y en a un, il a voulu défendre un champ de lentilles. Vous connaissez ce texte? Avec sa lance, il a tué, je crois, que 800 hommes. Et il tenait ce champ de lentilles. Mais est-ce que nous, on tient aux âmes de nos enfants? Les lentilles. Mais nos enfants, nos parents, qui se moquent de nous, est-ce que vous croyez que Dieu est capable de donner? Moi, je vous dis, demandez. Philadelphie a gardé la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, sérieusement, qui va garder cette parole? Ou qui va juste dire, ouais, c'est intéressant ces comparaisons en ce moment sur les différentes formes de prière. Tiens, j'avais pas fait gaffe que Luc 11, c'est la prière passionnée, Luc 18, c'est la prière persévérante. C'est intéressant. C'est bien. Mes frères et sœurs, c'est pas ça que Dieu nous demande de garder. Ce que Dieu nous demande, c'est je vais être passionné. Je te demande pardon, Seigneur, de m'être relâché, pour telle personne qui empire. Et alors, Dieu ressuscite les morts. Vous ne croyez pas qu'il peut changer quelqu'un de complètement taré? J'utilise ce mot parce qu'il est dans 2 Pierre. Souvent, on me dit, souvent, mais régulièrement, monsieur Gau, vous utilisez des mots, hein, vous ne devrez pas les utiliser. Écoutez-moi, ce mot, il est ou il n'est pas? Il y est ou il n'est pas? Mais on va le lire, parce que souvent, on me dit, écoutez, tous les mots, si j'utilise un mot qui n'est pas biblique, eh bien, dites-moi, je demanderai pardon le dimanche d'après. Mais je voudrais, mes frères et sœurs, que vous compreniez que Dieu a utilisé des mots profonds, sérieux, pour qu'on se rende compte qu'il y a vraiment un combat et qu'il y a des gens qui sont fous. Est-ce que c'est écrit que les gens sont devenus fous? Est-ce qu'il y a des textes qui disent, tiens, les gens sont devenus fous? Vous voyez? Etc. Regardez, c'est dans 2 Pierre. Je vous le dis, c'est pour vous aider et que vous ne vous imaginiez pas que je m'autoriserais à prendre des mots vulgaires ou des mots déplacés pour prêcher la parole de Dieu, ce que Dieu n'approuverait pas. Mais c'est écrit, 2 Pierre, chapitre 2, verset 12. Vous y êtes, hein? Regardez, mes frères et sœurs, c'est important. C'est important que vous compreniez bien qu'il y a des mots qui sont sévères pour nous montrer l'état d'égarement dans lequel les gens sont sur ce chemin large et spacieux. 2 Pierre 2, verset 12. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Pourquoi j'ai pris ça exprès? Pas pour me justifier, mais c'est que vous compreniez bien que je ne vais pas m'autoriser à prendre un mot qui n'est pas dans la parole. Et quand Dieu parle de gens stupides, de gens qui sont fous, de gens qui sont tarés, de gens qui sont lâches, de gens qui sont des races de vipères ou des hypocrites, je ne pense pas un seul instant que c'est pour les culpabiliser, c'est pour les arrêter sur le chemin et dire voilà, il te faut changer de chemin. Et le moyen de Dieu aujourd'hui, depuis que Jésus est remonté au ciel, c'est une église qui prie, une église pleine de passion et une église pleine de persévérance. Mes frères et sœurs, que sa maison soit une maison de prière, que notre cœur soit un cœur de prière, que nous comprenions bien une chose, c'est que quand Dieu dit « Demandez et je vous donnerai, si vous vous approchez du trône, vous obtiendrez miséricorde, si vous vous approchez du trône, vous obtiendrez la grâce, vous devez vous installer dans la grâce et Dieu répondra à vos besoins. Dieu est un Dieu qui répond aux besoins. » Mais si vous ne croyez plus à vos prières, si vous êtes là, « tu pries encore ? Tu crois à la prière ?» Il y a des chrétiens, moi je ne sais pas comment ils font certains. Ils se disent remplis du Saint-Esprit et ils ne prient plus. Moi je vous avoue que je n'ai pas tout compris. Mes frères et sœurs, Dieu répond à la prière. C'est comme ça. Et nos enfants, Dieu veut les sauver. Et Dieu n'est pas d'accord qu'ils soient sur le chemin large et spacieux. Vous entendez, mes frères et sœurs? J'aimerais qu'on se recueille avec beaucoup de cœur. Mais vraiment. Et qu'on réponde, mais pas haute voix. Mais qu'on réponde vraiment. Monsieur de Dieu, s'il vous plaît, vous pouvez choisir des frères. Est-ce qu'on peut se recueillir? Fermez les yeux. Nous sommes devant le trône de la grâce. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous en soyez pétris de cette pensée, que dès que vous vous recueilliez, dès que vous vous asseyez dans le lieu secret, le Seigneur, il est là. Et le Seigneur, il entend. Et nous devrions être mais remplis de reconnaissance. Tu es là, Seigneur. Et je vais obtenir. Oui, je suis confus, oui, je ne suis pas content de moi, j'ai rien. Ça fait des années que j'ai rien, mais toi, tu as tout. Vous entendez, frères et sœurs, les ruisseaux de Dieu sont pleins. Vous avez un enfant qui est impie, pervers, corrompu, athée, méchant, taré, etc., fou. Mes frères et sœurs, Dieu, il te dit, demande-moi. Demande-moi. Persévère, ne te relâche pas, sois passionné. J'ai du pain. Pardon. Vous entendez? Il y a du pain. Dans la maison du Seigneur, il y a du pain. Alléluia. Je m'adresse à ceux qui sont baptisés par immersion, à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, et je crois que vous pensez que ces choses sont sérieuses. Est-ce que vous voulez vous lever pour prendre le pain et le vin maintenant et remercier le Seigneur dans votre cœur? Oui, il y a du pain dans la maison de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, la piété dans une église, ce n'est pas une question d'ambiance. C'est garder la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Demandez-lui. Demandez-lui. Il attend que ça, le Seigneur. Demandez-lui ce soir. Demandez-lui 10 fois. Demandez-lui des prières importunes. Oui, je ne le lâcherai pas. Je ne le lâcherai pas. Tu sauveras mon fils. Tu sauveras ma fille. Tu sauveras mes parents. Tu l'as dit. Oui, Dieu n'est pas d'accord, mes frères et sœurs, à ce que nos amis, nos copains, nos voisins, les gens qu'on aime en tous les cas, Dieu n'est pas d'accord qu'ils soient sur le chemin large et spacieux. Bénissons-le, mes frères et sœurs, dans nos cœurs maintenant, amis. Si vous priez, faites-le courtement, mais je pense que c'est quand même des prières intimes, ça. Que son nom soit béni.